Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'université a-t-elle les moyens de la sélection ? Ça y est, demain, quelques 800 000 personnes connaîtront quelles filières universitaires leur ouvriront ou non leurs portes. La plateforme en ligne Parcoursup, mise en place par la loi Orientation et Réussite des élèves, passera en effet à la phase admission. 800 000 personnes qui ont chacune formulé en moyenne 8 vœux d'affectation. Le paysage s'annonce d'ores et déjà compliqué à déchiffrer. Il y aura demain, au terme de 4 mois d'attente et d'études, des dossiers, des oui, des oui-si, des non, et selon le syndicat SNESUP FSU, près de 250 000 lycéens sur liste d'attente. Au-delà du nombre, certains universitaires dénoncent l'opacité d'un algorithme qui diffère d'une université à l'autre, des notes, des appréciations, des lettres de motivation transformées en une note sur 20 pour déterminer l'avenir de ce quasi-million de candidats au banc de l'université. Il y a eu des appels d'enseignants-chercheurs à démissionner de ces commissions d'examen, quelques universités toujours bloquées contre la loi Aureu et des partiels annulés. Et il y a encore ces questions sans réponse, celle du collectif Sauvons l'Université par exemple, publié dans une tribune sur Mediapart ces derniers jours. Pourra-t-on faire la rentrée 2018 ? Il y a aussi celle des moyens alloués à un meilleur encadrement des choix d'études et aux moyens matériels pour les accompagner. C'est toute la question que repose ici le système Parcoursup. Alors, l'université a-t-elle les moyens de la sélection ? Et ils sont trois pour en parler ce soir. Valérie Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le master journalisme franco-allemand à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Cécile Lecomte, vous êtes avec nous au téléphone, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'université Rennes 1, où vous êtes également chargée de l'orientation de la liaison lycée-université et réussite étudiante. Et vous présidez la Courroie, l'association des responsables de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants. Et enfin, notre troisième invité, c'est Étienne Pateau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre de la commission recrutement Parcoursup en droit. Et justement, le droit, c'est une filière intéressante. Il y a eu chez vous 15 000 demandes d'inscription. Vous en avez sélectionné 4000 des dossiers. Déjà, comment cette première sélection s'est opérée ?
Alors, la façon dont le droit a fonctionné, et ça, c'est important de préciser que c'est vraiment spécifique au droit, parce que c'est une des difficultés que nous, dont nous aurons à discuter, qui est que il y a des grandes différences d'une filière à l'autre.
Exactement.
La façon dont, en droit, nous avons fonctionné, c'est que nous avons d'abord, par un algorithme, sélectionné 9000 dossiers et les 6000 restants ont été étudiés un par un, ouverts un par un par les enseignants-chercheurs qui ont accepté de faire partie de cette commission.
Cet algorithme d'aide à la décision mise en place par Parcoursup, c'est
oui.
Ça ? Celle qui donc donne une note sur 20 à partir de la lettre de motivation, des appréciations en conseil de classe et des notes obtenues au lycée, c'est bien ça ?
C'est ça.
D'accord. Et cet algorithme, est-ce qu'il vous a semblé assez fiable pour décider de l'avenir d'un dossier ?
C'est-à-dire que l'algorithme est assez fiable dans la mesure où on peut paramétrer de façon relativement libre un certain nombre de choses et qui sont paramétrables université par université et filière par filière. Donc on peut donner des coefficients différents aux notes de bac, à la fiche à venir, aux lettres de motivation. Mais l'algorithme ne peut pas tout voir. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir, au moins pour une partie significative des dossiers, d'avoir un regard qui soit un regard véritablement humain, parce qu'il y a énormément de choses qui ne peuvent être vues que par une analyse du dossier, qu'en rentrant dans le dossier, et d'avoir une intervention humaine qui, du coup, est plus subjective, mais d'une subjectivité qui, je crois, est assez assumée, en tout cas de la part du droit, d'une subjectivité assumée pour essayer, justement, de repérer les dossiers qui sont un peu différents, un peu intéressants, ou qui auraient une particularité qui nous semblerait significative. Un exemple qui me semble très, très significatif et très intéressant, c'est que il y a pas mal d'étudiants qui ont fait une première année de médecine et qui se rendent compte que finalement ils se sont mal orientés et veulent se réorienter en droit. On a vu pas mal de ces dossiers passer, et ça, l'algorithme est aveugle à ces hypothèses-là, parce qu'il ne les voit pas, il ne les repère pas. Or, précisément, ça peut être assez intéressant dans le parcours que de le savoir et d'agir en conséquence.
Alors, avant de vous interroger tous, d'ailleurs, sur ce qui a pu retenir votre attention sur ce regard humain et sur ce que ce regard humain a pu retenir de ces dossiers, vous, Étienne Pateau, vous avez examiné à vous tout seul 200 dossiers, et donc vous avez eu quand même, comme ce n'est pas votre travail premier en tant que qu'enseignant-chercheur, vous avez passé quand même très peu de temps sur ces dossiers, j'imagine.
Trois jours à peu près.
Trois jours par dossier ?
Ah non, pas 3 jours par dossier. Non, 3 jours pour l'ensemble des dossiers.
Oui, parce qu'en général, on parle plutôt de 4 à 5 minutes passées par dossier.
C'est difficile de donner une moyenne aussi précise que ça, parce que les dossiers sont très différents les uns des autres. Il y a des dossiers beaucoup plus standardisés, d'autres qui montrent que des parcours sont plus intéressants, plus originaux. Il se trouve que par le biais de la sectorisation, par exemple, nous avons tous les dossiers des lycées français de l'étranger, qui sont souvent des parcours très différents, un peu intéressants, un peu originaux, et de ce fait qui nécessitent un peu plus de temps pour les traiter. Donc il y a pas, je crois pas que ce soit très très aisé. En tout cas, je l'ai pas fait la moyenne de temps, mais de fait on se rend compte que voilà, c'est un travail qui est long, répétitif et difficile, parce que par définition c'est la première fois qu'on le fait. Donc du coup, il est certain que là on avance un peu dans le noir en essayant de se mettre en place des idées qui sont pas très faciles.
Qui sont pas très faciles à se faire sur des étudiants qu'on n'a jamais rencontrés. Valérie Robert, 200 dossiers étudiés en 3 jours. Vous n'avez pas étudié de dossiers, vous avez refusé de le faire. En revanche, vous avez eu des retours de certains de vos collègues. Cette question du temps passé à étudier ces dossiers, du regard humain nécessaire mais compliqué à accorder, il pose la question des moyens alloués à l'université, d'ores et déjà.
Il pose la question des moyens, mais bon, moi j'ai vu des dossiers, hein, j'étais dans une commission et pour des raisons de santé finalement je n'ai pas participé au classement. J'ai regardé des dossiers et ce qui m'est apparu, c'est surtout que, indépendamment de la question des moyens, c'est que moi personnellement, en tant qu'enseignante chercheuse, je n'ai pas les moyens de sélectionner des étudiants, sachant que le but officiel de la réforme, qui n'est pas d'une sélection selon le ministère, c'est d'améliorer le taux de réussite en université. Je ne sais pas moi-même prévoir le taux de réussite, je ne sais pas prévoir la réussite d'un lycéen, futur étudiant, et les différents critères utilisés me paraissent très problématiques. Par exemple, les notes. Alors, les notes du bac français n'étaient pas censées servir à la sélection des étudiants pour l'université. Donc, c'est quand même quelque chose qui est rétroactif. Les notes du lycée, les notes du contrôle continu, le lycée, c'est pas un concours. Le contrôle continu ne sert pas à évaluer les capacités des lycéens à être de bons futurs étudiants. Ça sert à en voir où ils en sont dans l'assimilation des connaissances et des compétences. Donc on détourne complètement en fait la fonction de l'évaluation au lycée. C'est très difficile également. On sait aussi qu'il y a une grosse différence entre les notes du contrôle continu et les notes du bac. Bref, tout ça est compliqué. Si on regarde les avis des profs, que j'ai regardé aussi, c'est très varié. Et par ailleurs, d'expérience aussi, j'ai aussi enseigné dans le secondaire, on ne fait pas le tour d'un individu en lui enseignant, en l'ayant en cours. Donc il y a des tas de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas. Tout particulièrement à cet âge-là. Ils sont en pleine évolution. Donc qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils ont comme potentiel? Chez certains, ça se voit. Sont les bons élèves, entre guillemets, les guillemets je les utiliserai toujours là, ce sont ceux qui rentrent dans le moule à un moment donné, les autres, on n'en sait rien. La lettre de motivation, eh bien, plein de gens l'ont fait écrire, je le sais, j'ai écrit celle de la fille de ma coiffeuse, voilà, j'espère que ça marchera. Et puis,
il y a même des entreprises privées qui se proposent d'écrire les lettres de motivation.
Absolument, il y en a plein qui l'ont fait. Et puis, une place en université, ce n'est pas un emploi. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans son CV à 17 ans ? Bonjour, j'ai 17 ans, je suis allée au lycée jusqu'à maintenant. Bon, c'est quand même compliqué. Mais ça veut dire surtout une chose, c'est que le système même de Parcoursup, c'est tout ce que vous avez fait en tant que lycéen sera retenu pour ou contre vous. Donc c'est un peu un système en fait de casier judiciaire. Et on a des exemples, le réseau informel dont je fais partie, de gens qui s'informent les uns les autres, et on en a vraiment eu besoin parce que le ministère nous a très mal informés. Je sais qu'il y a des formations pour lesquelles on a retenu contre les lycéens le fait d'avoir redoublé dans leur scolarité. Le redoublement, c'est autorisé quand même. Et c'est formateur. Moi-même, j'ai déjà redoublé dans ma vie, je ne crois pas avoir raté ma vie après. Je sais que, par exemple, il y a des filières scientifiques dans lesquelles ils ont retenu l'allemand première langue, comme bonus. En tant que germaniste, j'en suis ravie, mais c'est quoi ? C'est une sélection sociale, en fait. Puisqu'on sait que ce sont encore, on est toujours les meilleures classes. On a retenu le lycée d'origine, on a retenu la série du bac. Je ne sais pas si vraiment on a introduit de l'humain là-dedans. Ça, c'est quand même une question. Et je pense surtout qu'en fait, on a délégué aux enseignants-chercheurs ce qui finalement ressemble quand même à un tirage au sort déguisé, à une sorte de loterie, parce que c'est subjectif de transformer tout ça en notes. Et par ailleurs, il y a eu beaucoup d'ex-échos.
C'est ça, c'est la question que je voulais aborder, c'est que cet algorithme, en fait, avec une note qui transforme trois mêmes éléments pour tous les élèves, aboutit à pas mal d'ex-échos qu'il faut ensuite départager. Et là, des éléments subjectifs et un peu mystérieux à cette heure encore ont été mis en œuvre. Vous, Cécile Lecomte, vous dites que cette sélection a permis de voir plus clair dans le profil des élèves qui postulaient à l'université de Rennes 1.
Oui, alors c'est pas une sélection, hein, c'était l'examen
l'étude des dossiers
des candidats, des lycéens et déjà étudiants qui ont candidaté dans nos établissements. Donc loin de là l'idée d'une sélection. Alors moi je n'ai pas participé moi-même, enfin directement à une commission. Par contre, en tant que vice-présidente en charge d'orientation et d'insertion professionnelle, j'ai coordonné les 8 commissions qui ont œuvré dans mon établissement. On a reçu en tout 25 000 candidatures. Et donc on a essayé d'avoir un travail de coordination entre les collègues des différentes commissions pour, puisque c'était nouveau pour tout le monde, hein, pour justement essayer d'aborder les choses la plus sereinement possible, essayer d'avoir de dégager une philosophie commune sur la manière dont on allait procéder, dont on allait prendre en compte la fiche à venir, le projet de formation motivée ou les notes.
Donc la fiche à venir qui est remplie par l'enseignant du secondaire.
Voilà, et le chef d'établissement. Donc voilà, une coordination et puis pour aussi avoir de l'entraide, je dirais, et l'échange de pratiques entre les différentes commissions, ça c'était extrêmement intéressant.
Et comment concrètement ça s'est mis en place? Il y a eu une division des dossiers entre vos collègues? Combien de dossiers par...
Dans chaque commission, nous on avait entre 5 et 8 membres.
D'accord.
Voilà, et qui ont travaillé entre... on a eu les dossiers le 4 avril, je crois, entre le 4 avril et puis début de semaine dernière. Et donc, ils se sont partagés les dossiers, évidemment.
Et qui se sont servis, donc, j'imagine, de cet outil d'aide à la sélection, qui est donc l'algorithme mis en place par Parcoursup, et qui, après, ont donc examiné ces dossiers après coup, j'imagine.
Oui, alors c'est un outil d'aide à la décision.
À la décision.
Pas autre chose.
Ma langue
fourche. Et c'est, nous avons fait le choix, donc pour toutes les universités, hein, le ministère a proposé des journées de formation pour s'emparer de cet outil d'aide à la décision. Et nous avons fait le choix d'envoyer, tout le monde n'a pas pu y aller, mais la plupart de nos présidents de commission d'examen des vœux sont venus à Paris, aux journées de formation, directement avec l'équipe qui gère Parcoursup, et ça a été vraiment intéressant. Ainsi, tout le monde a pu vraiment, dès le début, bien saisir à la fois les aspects techniques de cet outil, mais aussi tout ce qu'il permettait. Et donc, en toute connaissance de cause, ensuite, établir les différentes pondérations des éléments que l'on allait prendre en compte. Et évidemment, entre le droit, l'économie ou les mathématiques, on ne va pas mettre les mêmes paramétrage, hein, bien sûr, mais le fait d'avoir pu bénéficier de cette formation au niveau national, je dirais, à l'outil, a été aussi, je crois, une chance pour que ça se déroule du mieux possible ensuite dans l'établissement, même s'il a fallu, bien sûr, un accompagnement ensuite un peu technique, hein, sur l'outil. Donc voilà, ça c'était l'outil qui nous a aidé. C'est un peu à faire un peu un filtre aussi pour identifier des populations de candidats. Et ensuite, il y a eu vraiment de l'humain, non seulement pour départager les ex-échos, mais aussi pour regarder en détail les profils, on le disait tout à l'heure, des étudiants en réorientation, parce que ça, mm-hmm. c'est important. Les dossiers ont vraiment été lus et examinés. Et les collègues, vraiment, ce qu'ils me rapportent, c'est que c'est la première fois qu'ils voient vraiment qui sont les candidats qui ont postulé sur leur formation. Jusqu'ici, on avait une vision parfois des a priori, hein, sur qui venait chez nous. Et là, pour la première fois, ils ont pu vraiment se rendre compte, avoir une idée de leur projet d'études, alors parfois de leur projet professionnel, mais ça, c'est pas toujours décrit, hein, et c'est bien normal à cet âge-là.
À cet âge-là, oui.
Évidemment. Mmh. Mais ça caractérise mieux la population, et je crois vraiment que cela... Alors, peut-être... Ici, la rentrée prochaine, je ne sais pas, mais à moyen terme, cela va certainement avoir une influence sur l'accompagnement à mettre en place en L1. Et je crois vraiment que ça va avoir un effet positif.
Cécile Lecomte parle de cet algorithme comme d'un filtre qui permet de sélectionner une certaine population. Mais justement, cet algorithme, il pose question. Il y a deux chercheuses qui ont écrit une tribune dans Le Monde, Cécile Méadel et Joël Farchi, qui pointent l'algorithme comme étant le symbole du malaise de toute l'université, qui appelle à le repenser. Est-ce que justement cet algorithme utilisé sur la plateforme Parcoursup, donc avec 7 notes sur 20 qui dépend d'éléments différents et pas forcément liés intrinsèquement à la capacité, à la volonté d'un élève à étudier, est-ce que ça a pu laisser, Étienne Pateau, des élèves sur le carreau? Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, de manquer des profils qui auraient pu faire une route à l'université?
Si, bien sûr. Mais je pense que la question n'est pas tellement une question technique, c'est pas tellement une question de l'algorithme, parce que les algorithmes, s'il y a des erreurs dans le paramétrage de l'algorithme, ces erreurs peuvent être corrigées. Le problème est, à mon avis, plus profond de ça, de savoir exactement ce qu'on veut faire comme sélection, ou si on veut pas parler de sélection, comme mécanisme de prérequis, parce que la situation actuelle, et là encore à nouveau je parle que pour le droit, parce que je pense que c'est très important de distinguer selon les filières, la situation actuelle c'est une forme de sélection par l'échec. Et cette forme de sélection par l'échec qui fait que en première année, il y a que entre 30 et 40% d'une première année qui passe en deuxième année, et c'est problématique. C'est problématique d'avoir un taux d'abandon aussi important, qui est presque celui d'un tiers, et un taux de redoublement qui est aussi à peu près un tiers. Et donc du coup, l'idée de mettre en place une forme de filtre, ou en tout cas de regard à l'entrée, en disant mais voilà, pour essayer de convaincre que nous devons à l'entrée sélectionner ou choisir ou décrire des prérequis pour les étudiants qui veulent faire du droit, ça me semble en soi une idée avec laquelle je suis pas en désaccord. Le problème après, c'est que il faut réfléchir un tout petit peu à ce qu'on entend par la sélection, et là je pense que c'est un peu le problème de Parcoursup et de ce système qui a été mis en œuvre dans une extrême urgence.
Pour laquelle vous n'avez pas vraiment eu le temps de réfléchir aux modalités de mise en
place. C'est-à-dire que personne ne nous a demandé de réfléchir, surtout.
Il y a eu des consignes contradictoires de la part du ministère.
Il y a eu des consignes contradictoires de la part du ministère et des consignes contradictoires de la part des rectorats. Un exemple qui, je trouve, très, très frappant, c'est la question du zonage ou des secteurs. Les universités parisiennes recrutent, là encore je ne parle que pour le droit, mais recrutent à Paris intramuros, ce qui déjà est en soi un peu intriguant quand on est au XXIe siècle de se contenter de Paris intramuros. On a à peu près 70% de demandes qui étaient des demandes hors secteur, donc hors Paris, Île-de-France plus province plus lycée, Île-de-France plus province, et on n'avait pas jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire qui est arrivé après la sélection, le taux d'étudiants qu'on pouvait recruter hors secteur. Et ça, c'est très embêtant, parce que du coup, évidemment, selon qu'on a un taux important ou pas, qui finalement était de 15% après négociation, bien le travail qu'on fait n'est pas du tout le même selon qu'on recrute sur le territoire de toute la France ou selon que l'on recrute sur le territoire uniquement de Paris. Et ça, c'est très regrettable, parce que évidemment, on travaille du coup dans l'ombre et avec toujours cette impression qu'on nous donne une autonomie, mais qu'en réalité, c'est une autonomie qui n'est concédée que du bout des lèvres et qui reste quand même sous un extrême...
Et qui révèle plus de l'indécision et de l'indétermination des consignes, en fait.
Pas uniquement. Je pense qu'il y a aussi une volonté de retenir un certain pouvoir de la part à la fois des services centraux du ministère et des rectorats. Je pense que ce n'est pas uniquement une question technique à nouveau.
Vous disiez, Étienne Pateau, qu'il y avait quand même un taux d'échec important à l'issue de la première année, dans votre filière par exemple, et aussi dans d'autres tout aussi sélectives. Mais est-ce que ce taux d'échec n'est pas aussi une question de moyens? Je repose la question des moyens parce qu'elle me semble importante, ne serait-ce que sur le processus de sélection, pour redire un mot qui fâche Cécile Lecomte, mise en place par Parcoursup. L'Académie de Versailles a par exemple fait appel pour son université de médecine à des chefs de clinique pour les aider à sélectionner et à étudier les dossiers. Est-ce que justement Parcoursup ne remet pas, n'a pas l'avantage, si on peut dire, de remettre sur la table cette question des moyens au sein de l'université?
Ça fait qu'on en parle effectivement, mais...
Valérie Robert.
Oui, ça remet la question des moyens pas au centre de la discussion, pas là où elle devrait être. Parce que si Parcoursup a été mise en place, c'est aussi parce que il n'y a pas assez de place pour tous les candidats dans certaines filières. Donc ce sont quand même des raisons financières qui, au départ, mènent donc à cette sélection. Sélection qui veut dire, non pas que certains lycéens n'auront pas de place à l'université, mais qu'ils auront de la place là où il y a de la place, et pas là où ils veulent aller, ce qui n'est pas la même chose. Et il y aurait quand même une solution plus simple techniquement, plus compliquée peut-être financièrement, ce serait tout simplement d'ouvrir des places dans les filières les plus demandées. Ça n'est pas la solution qui a été choisie. Bien. Ensuite, bon, il y a la question des moyens, il y a la question de l'identification, par exemple, des étudiants. J'ai trouvé ça très intéressant ce qu'a dit Cécile Lecomte. C'est, ça nous permet de savoir qui vient. Sauf que, première chose, moi, je pense, je suis quasiment certaine, on verra demain et un peu plus tard, que ceux qui vont venir ne sont pas ceux qu'on a classés en premier. Qui en général vont être pris partout et vont aller dans des filières plus prestigieuses pour que l'université, à tort ou à raison, plus prestigieuses. Et puis la deuxième chose, c'est que savoir connaître notre public, on n'a pas besoin de Parcoursup pour ça. Nous, on a un dispositif d'accompagnement, on a des tuteurs de première année, on accompagne nos étudiants de première année et ça permet d'avoir un taux d'échec ou un taux de réussite plutôt plus élevé. Sur le taux d'échec, ensuite, c'est aussi une question importante, mais il faut savoir ce qu'on entend par échec. Moi, j'ai échoué, j'ai raté une première année, effectivement. J'ai pas l'impression que c'était un échec. J'ai appris plein de choses. C'était une première année de maths physique. Ça me vaut déjà une grande réputation de grande scientifique avec un grand S auprès de mes collègues. Ça, c'est toujours utile. Mais se tromper n'est pas forcément un échec. Et je voudrais quand même rappeler que, par exemple, en classe préparatoire littéraire, il y a 40% d'abandon. Personne ne considère ça comme un échec. Emmanuel Macron a raté le concours d'entrée à l'ENS. Personne ne considère ça comme un échec. Frédéric Vidal a raté ses deux premières années de médecine. Personne ne considère ça comme un échec. Donc il y a quand même deux poids, deux mesures. Et par ailleurs, les sociologues qui travaillent sur ces questions-là savent que parmi ces échecs, entre guillemets, il y a des redoublements. On sait que les redoublements, c'est utile. Il y a des réorientations dans d'autres filières. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait jusque-là a été inutile. Et il y a des réorientations hors université, mais pour lesquelles l'université a servi en quelque sorte de classe préparatoire. Donc tout ça, c'est quelque chose d'important. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, tant que j'ai la parole, là.
Avant de la redonner à Cécile Lecomte.
Exactement. Sur la question des aspects techniques, justement, je suis absolument pas d'accord avec Cécile Lecomte. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que nous, universités, qui sommes sans arrêt évaluées sur notre gouvernance, on a constaté de la part du ministère une impréparation et une incompétence absolument invraisemblables. Le dernier décret sur Parcoursup et Paris, vendredi dernier, il aurait changé toute la procédure, sauf que nous, vendredi, on devait déjà avoir rendu les classements. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui est incroyable. Toutes les informations sur Parcoursup, on les a eues indirectement. Moi, de la part de mon université, je n'ai rien eu. Ça m'a pris un temps fou pour me tenir au courant. Bon, maintenant, je connais tous les aspects de Parcoursup, c'est formidable, mais au détriment de mes missions d'enseignante-chercheuse. Tout le monde n'a pas travaillé avec les mêmes informations. Il y a vraiment eu un brouillard complet. Il y a eu par exemple aux réunions d'information au ministère dont Cécile Lecomte a parlé, on ne savait pas encore, les ingénieurs n'avaient pas pensé qu'on aurait besoin de connaître la langue vivante faite par les lycéens, par exemple. Il fallait ouvrir chaque dossier pour le trouver. Des questions comme ça.
Cécile Lecomte, vous vouliez réagir depuis longtemps et je me permets aussi de vous relancer sur cette question de l'échec, puisqu'on demande aujourd'hui aux lycéens qui veulent aller à l'université de répondre à des attendus, c'est comme ça que c'est appelé, des attendus par filière, qu'ils doivent, disons, montrer une cohérence, des compétences qui sont attribuées à certaines filières, et parfois ça peut aller vers des choses très simples comme faire preuve de curiosité intellectuelle. Bon, voilà. Est-ce que là, il n'y a pas un problème de confiance vis-à-vis des lycéens qui postulent à l'université ? Est-ce qu'on ne tend pas à mettre en place avec ne serait-ce que ce système des attendus, de la fiche d'avenir, un système dissuasif pour les futurs étudiants ?
Alors, effectivement, alors cette question de l'orientation et qui parfois engendre la réorientation, hein, on a déjà parlé. Donc évidemment, hein, je partage le point de vue que la réorientation, c'est pas un échec, hein, c'est un élément, une étape dans la construction de parcours d'un étudiant et qui finalement à cet âge-là est assez logique. Hein. Mais et je rebondis aussi, bien sûr qu'avant on connaissait nos publics étudiants, une fois qu'ils sont chez nous, je partage le point de vue de la collègue, bien sûr, j'étais très longtemps responsable d'une première année et j'ai mis en place beaucoup de soutien, de tutorat, d'accompagnement divers et variés. Mais finalement, je pense quand même qu'au travers de cet effort, alors pas tous, hein, qu'un certain nombre de candidats ont fait en remplissant leur projet de formation motivé, cela donne quand même à voir des éléments qu'on ne voyait pas auparavant. Mais je crois que ce qui est au cœur du système et pour transformer l'essai, hein, je suis d'accord que cette année, on a eu les éléments très tard, que c'était très compliqué, mais on s'est finalement quand même relativement bien soutenu entre nous, entre universités, pour essayer de faire au mieux dans l'intérêt des jeunes de cette année. La question de l'orientation, de l'amélioration de l'accompagnement à l'orientation dès le lycée, c'est bien là qu'est l'enjeu. Et plus cette orientation sera améliorée au lycée, plus les futurs étudiants, les lycéens, s'approprieront nos attendus. C'est quand même la première fois qu'on les a vraiment...
Encore faudrait-il les préciser un peu plus et les spécifier par filière, ces attendus,
Ils sont par filière, hein. Là,
oui, c'est le cas, mais quand un attendu en sociologie, c'est faire preuve de curiosité intellectuelle, ça reste quand même assez général.
Je connais mal les attendus de sociologie, mais j'imagine qu'il n'y a tout de même pas que celui-là.
Pas que celui-là,
Je pense que l'enjeu, c'est l'appropriation des attendus par les lycéens, mais par leurs enseignants. Et là, il y a...
Pour une préparation en amont.
Très bon, voilà. Et là, il y a un fort levier. Notre travail avec les collègues enseignants du second degré, en particulier les professeurs principaux, mais pas seulement, hein, mais avec les professeurs principaux, nous, dans l'académie, dans la région académique de Rennes, on avait même entamé ce travail avant la loi, en fait, avec des journées dédiées à la réflexion sur qu'est-ce que la réussite étudiante dans les filières universitaires, avec avec des professeurs principaux de l'ensemble des lycées publics de Bretagne. Et ces journées où on met ensemble des universitaires et des professeurs principaux sont extrêmement intéressantes pour essayer de voir ensemble comment on peut construire en fait des séquences pédagogiques pour mieux préparer, mieux amener les élèves à comprendre quels sont les attendus de...
Alors, globalement, à mieux les accompagner, en gros. Hein,
ouais, mieux les accompagner par une meilleure appropriation collective de ces fameux attendus. Et ce qui est très important, pour que les collègues du secondaire, professeurs principaux, puissent mieux voir ce qu'est l'université en 2018. Parfois, pas tout le monde, hein, mais parfois, ils en ont une représentation qui date un tout petit peu. Et c'est très intéressant de travailler cet axe-là. Mais...
En tout cas, d'accompagner et les élèves et les professeurs et les professeurs du secondaire. Je voudrais avancer. Excusez-moi, Cécile Lecomte, mais je voudrais un petit peu qu'on avance dans le débat et je vous redonne la parole très vite. Mais demain, qu'est-ce qu'il va se passer concrètement? C'est que on passe donc à une nouvelle étape du processus Parcoursup, donc la phase d'admission où chaque personne qui s'est inscrite sur la plateforme en formulant jusqu'à 10 vœux verra apparaître plusieurs types de réponses. Il y aura oui, non, et oui. Si est sur liste d'attente et ce oui si donc il est assez mystérieux surtout pour ceux qui n'ont pas eu affaire à cette plateforme. Oui si donc il s'agit de donner une chance à un futur étudiant mais qui risque d'éprouver des difficultés à suivre un parcours et donc avant de l'accepter dans une filière on lui demande on l'invite à suivre des modules de soutien mais l'existence de ces modules de soutien est assez hypothétique dans certaines facs là encore à cause d'un manque de temps et de moyens. Étienne Pateau.
Oui, c'est certain. Je pense que les oui-si ont été progressivement oubliés. En tout cas, en droit, à nouveau, je parle que pour cette discipline-là, mais qui est, je pense, une discipline en tension pour laquelle le nombre de demandes est infiniment supérieur au nombre de places, en tout cas dans mon université.
Vous allez vous concentrer sur les oui.
Sauf que le système est fait de telle sorte qu'en réalité, et ça Valérie Robert le disait il y a un instant, elle a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle mesure sûr, les gens qu'on a sélectionnés vont effectivement venir chez nous, puisque forcément, les dossiers qui sont les plus étincelants sont ceux qui vont évidemment être sélectionnés, mais qui auront probablement été aussi pris ou adoptés ou acceptés dans d'autres formations qui sont peut-être plus sélectives, des classes prépa aux grandes écoles ou des doubles licences, par exemple, qui sont sélectives depuis longtemps et très, très ouvertement. Donc il y a ici une vraie interrogation qui est peut-être liée au fait que c'est la première fois et que donc forcément il y a un aspect crash test dans la mise en place de Parcoursup, mais de fait il est assez difficile de savoir exactement parmi ceux que nous avons sélectionnés ceux qui vont effectivement venir chez nous. Il est très tout à fait certain qu'en droit notre espoir est que globalement le taux de réussite va augmenter en première année, et ça c'est tout l'objectif de la construction qu'on a essayé de mettre en place et celui-là. Est-ce que cet objectif va être rempli? C'est très difficile à savoir. Ça, avant l'année prochaine, c'est presque impossible.
Et pour les filières donc, qui auront ce problème de devoir choisir entre des oui et des oui si, qui ne rempliront pas leur place qu'avec des étudiants à qui on aura répondu oui, il y a ce problème de la mise à niveau. Là encore, Valérie Robert, des universités qui ne sont pas du tout équipées pour accueillir ces étudiants qui ont une chance évidente de pouvoir étudier dans ces universités, mais à qui on dit c'est sous réserve d'une mise à niveau.
Mais on n'a pas les moyens pour cette remise à niveau. En tout cas, dans mon université, il n'est pas question de dire oui si à quiconque, c'est oui. Dans ma filière en particulier, c'est oui. Même si nous avons plus de candidats que de places, nous savons très bien que nous n'avons jamais rempli depuis toujours, et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas cette année. Après, la question je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Étienne Pateau sur la question d'augmenter le taux de réussite grâce à cette sélection. Je veux juste renvoyer à des travaux d'un collègue de l'IUT de Strasbourg, Julien Gossat, qui a justement étudié le processus de sélection dans un IUT, donc qui est sélectif depuis toujours. Et ce qu'il a vu, c'est qu'ils ont beau changer leurs critères de sélection tous les ans pour essayer d'améliorer vraiment d'être au plus fin par rapport à leurs besoins, ils n'ont jamais réussi à augmenter leur taux de réussite.
Oui, mais ils partent peut-être pas de 70% d'échecs.
C'est un plateau.
Non, bien sûr, puisque c'est sélectif depuis le départ,
voilà.
Bien sûr.
C'est une grosse différence, parce que quand on est, à nouveau, je ne parle que pour le droit, mais quand on voit bien quand même qu'il y a un taux d'échec qui est extrêmement important. Dans ces échecs-là, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut faire bien attention, différencier les parcours, et qu'une première année d'interrogation qui finalement conduit à une réorientation n'est nullement un échec. Ça, c'est tout à fait évident, et c'est très important de le retenir, mais il n'en demeure pas moins que là, entre 60 et 70% de gens qui ne passent pas en première année, de la première à la deuxième année, c'est quand même problématique. Et de ce fait, je suis sûr que quand on est déjà dans une filière sélective, il est difficile d'affiner les critères, mais enfin, le point de départ n'est pas du tout le même.
Avant de vous laisser répondre, Valérie Robert, je voudrais redonner la parole à Cécile Lecomte sur ces étudiants qu'on met un petit peu en ballottement avec ce oui-ci, ces étudiants-là à qui on n'autorise pas par ailleurs, contrairement à ceux à qui on va répondre sur liste d'attente, qu'on n'autorise pas à faire un recours pour qu'ils puissent continuer leur parcours, qu'ils puissent proposer d'autres vœux. Il y a des chances aujourd'hui pour que ces étudiants qui se voient répondre oui, peut-être, oui, si, et qui ne sont pas du tout parmi les meilleurs, mais qui sont loin d'être les plus mauvais, puissent être les plus pénalisés par ce système Parcoursup.
Mais je crois pas, parce que en fait, enfin nous on met en place des oui-si, alors y compris en droit. Nous avons des oui-si en droit et en sciences.
Et vous avez les moyens de cette remise à niveau demandée?
Alors c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans toutes les filières, parce que cette année on a eu quelques moyens, mais comme les différentes universités, hein, mais certainement pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire, ça on est bien d'accord. Donc on a fait avec les moyens dont on disposait, et donc on aura un oui-si en droit, en mathématiques et en informatique. En mathématiques et en informatique, ça consiste en proposer un L1 en 2 ans, et en droit, c'est en particulier un système de tutorat obligatoire et de mise à niveau en expression écrite, enfin en orthographe, en expression écrite en français essentiellement. Donc moi je crois que ceux qui vont avoir oui si demain, il faut qu'ils voient ça plutôt comme une chance. C'est-à-dire que dans un système où effectivement les universités ont peu de moyens pour mettre en place ces oui si, eh bien ils ont pris du temps pour identifier, alors on identifie au mieux à la lecture des dossiers, hein, c'est vrai que c'est quand même c'est difficile, hein, mais pour identifier au mieux à la lecture des dossiers ceux à qui cela va être, enfin ça vaut le coup, je dirais, de donner un coup de pouce, hein, pour aller avoir plus de chances de réussir dans cette formation. Il y a des candidats qui, on le sait, sont tellement éloignés des attendus que on va avoir beaucoup de mal à les faire réussir. Par contre, il y en a d'autres, on le sait, parce que en fait, on a depuis longtemps, on a tous des systèmes de soutien, de tutorat, d'accompagnement divers et variés, et on voit sur quelle population cela peut avoir un effet positif. On sait que d'autres, c'est
sur laquelle
perdu. Des étudiants, un, extrêmement motivés, je crois que la motivation c'est le premier facteur, et disons qui ont un bagage venant du bac qui n'est quand même pas totalement à l'opposé de la filière attendue. Mmh. Vous voyez, et franchement, hein, moi j'ai déjà vu des réussites en mettant en place un L1 en 2 ans pour des étudiants de biologie, pour des étudiants qui avaient des bacs technologiques qui, a priori, enfin sans ce dispositif de L1 en 2 ans, avec une mise à niveau et un accompagnement très resserré, n'auraient jamais réussi, et un certain nombre d'entre eux ont atteint le master quand même, hein. Et donc, juste pour reprendre un tout petit peu mes propos, en fait, moi je suis dans une université où, dans toutes nos formations, on a toujours pris tout le monde, hein. C'est peut-être ce qui diffère aussi avec les collègues parisiens, en particulier intramuros. Donc chez nous,
Valérie Robert dit non.
On a jamais eu, enfin on a toujours pris tous les candidats. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un peu un autre regard, hein. Mm-hmm.
Parlons-en de ce regard dans les 5 dernières minutes qui nous restent. Certains universitaires ont écrit des tribunes, se sont exprimés ces dernières semaines pour dénoncer un système Parcoursup qui favoriserait une certaine endogamie sociale, qui ne permettrait qu'aux meilleurs éléments et qu'à ceux qui avaient les meilleures dispositions, c'est-à-dire la capacité, pour revenir à la lettre de motivation, d'écrire une bonne lettre de motivation, de constituer par écrit sur le papier un projet universitaire qui corresponde à des attentes. Est-ce que c'est aussi votre avis, Valérie Robert? Est-ce que ce système Parcoursup et ce système de oui-si, qui ne favoriserait que dans les filières sélectives les meilleures, favoriserait une certaine endogamie sociale?
Je pense que d'une manière générale, c'est déjà le cas pour le secondaire, hein, et que Parcoursup ne va pas du tout dans le sens de corriger ces inégalités sociales, bien au contraire dans le sens de les renforcer, au sens où on examine des dossiers d'adolescents, faut pas oublier ça, hein, ce sont des individus, ce sont pas que des dossiers, des adolescents à un moment X, et ceux qui correspondent à la norme et qui rentrent dans le moule à ce moment X à 17 ans sont en général ceux qui viennent de milieux favorisés. Pour les autres, c'est beaucoup plus flou, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais d'une manière générale, je trouve le système Parcoursup oublie une chose, c'est que l'éducation, c'est évolutif, et les individus évoluent eux aussi, c'est-à-dire que Parcoursup les fige à un moment de leur évolution, à 17 ans, en pensant qu'à partir de là, plus rien ne changera jamais. Alors moi, mon métier, c'est de les former précisément, et de les amener quelque part, là où ils ne pensaient pas forcément aller, où ils ne pensaient même pas avoir forcément les capacités à aller, où moi-même peut-être je ne pensais pas qu'ils n'avaient pas les capacités à aller, et on peut quand même essayer. Je pense que ça, c'est une richesse, et c'est quelque chose qu'on est en train de détruire. C'est pour moi comme une machine à broyer les adolescents.
Étienne Patou, vous vouliez réagir?
Oui, parce que c'est certain qu'il y a ici un petit regret dans la mise en place de Parcoursup, c'est que en réalité, il n'y a aucun moyen actuellement qui est donné aux universités de paramétrer des critères sociaux. Soit par le biais...
C'est ce qui manque à Parcoursup aujourd'hui ?
C'est en tout cas une des choses que je regrette beaucoup, oui, qu'il manque à Parcoursup. Soit de mettre en place, on pourrait imaginer, hein, de faire comme Sciences Po Paris a mis en place des conventions particulières avec certains lycées, ou de réfléchir à des taux de boursiers.
Ou de supprimer la lettre de motivation, par exemple.
Oui, supprimer la lettre de motivation, en tout cas, il est certain qu'il y aurait des pistes à explorer qui ne le sont pas. Et je pense que Parcoursup, ici, illustre de façon très claire une ambiguïté fondamentale qui pèse sur l'université, qu'on n'a jamais choisie, entre savoir si l'université devait avoir une espèce de politique de la jeunesse pour accueillir tous les jeunes parce que c'est mieux qu'ils soient à l'université plutôt qu'ailleurs, ou une vraie véritable politique d'exigence scientifique. Et on ne sort pas de cette ambiguïté que je trouve très regrettable de mon côté.
Qu'est-ce qu'il manquerait aujourd'hui pour favoriser qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'avenir d'un système comme Parcoursup? Est-ce que c'est une fausse piste selon vous? Est-ce que c'est un bon début mais il faudrait améliorer les choses? Étienne Pateau.
Moi, il me semble que c'est un bon début susceptible d'être amélioré. C'est peut-être ici un tempérament indécrottablement optimiste qui parle.
Valérie Robert n'aurait pas le même avis.
Non, je pense pas. Je crois que le système est énormément améliorable. Ça, c'est certain. Et notamment en introduisant un tout petit peu de diversité dans les différentes formations.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Étienne Pateau, professeur à Paris 1. Valérie Robert, professeur à Paris 3. Et Cécile Lecomte, vice-présidente de l'université Rennes 1. Cette émission, l'université a-t-elle les moyens de la sélection, est à réécouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Elle a été préparée par Antoine Tricot, Isolde Sicard, Fanny Richer, Prune Saez Contreras. Elle a été réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son aujourd'hui Jacques Hubert. Bonsoir Arnaud Laporte.
Bonsoir à nouveau Michel Desvaux. Rappelez qu'on s'est vu il y a à peu près.
Je m'en souviens déjà plus.
Une heure, parce que le débat était dense. Ça doit être pour cela. Hervé Gadet sera de retour demain.
De retour
il parlera
demain. De Kim Jong-un. Peut-on lui faire confiance?
Bonne question. Merci beaucoup, Émilie. 19h, vous écoutez France Culture. Les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.